CKUT Radio.
Radio.
Sound waves in the air.
CKUT.
Montreal, Canada.
CKUT.
Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
There is this thing. Do you realize what is? There is this thing. Do you realize
consciousness is affected?
There is this thing on. There is this thing going on. Do you realize
our consciousness is affected?
There is this thing going on.
What is called
the news brought to you live.
Bonjour, bienvenue sur En Profondeur sur CKUT.ca 90.3 FM. À l'émission En Profondeur. Aujourd'hui, émission en deux temps. Le premier temps, nous allons écouter la période de questions de la conférence organisée par Éco-Société, animée par Webster, avec Natacha Canepé-Fontaine et Denis Elias-Béchard, qui nous présentaient leur livre, ou en fait la seconde édition de leur livre, « Que je te salue ».
Je vais laisser la place aux auditrices, auditeurs, spectatrices, spectateurs, je ne sais pas, webistes, webeurs, parce qu'on a quelques questions et le temps file. Et donc, je prends deux questions de notre public. La première, c'est de Nathalie Boudreau. Elle dit, au-delà de tous les rapports des divers gouvernements, comment voyez-vous la réconciliation avec nous qui vivons sur votre territoire? Comment pouvons-nous, nous aussi, travailler en ce sens? Et par la bande, j'aimerais juste que tu insères, Natacha, cette notion de « il n'y a pas de réconciliation sans réparation ». Je pense que c'est quelque chose qui est crucial, important et incontournable.
J'avais pensé l'aborder, mais je me suis dit, je vais dire le mot, puis ça va être genre une phrase après. Mais je pense que c'est la réparation, c'est un peu ce que je viens de dire. En fait, c'est de, tu sais, moi j'aime beaucoup l'idée, je suis peut-être juste obsédée par ça, mais je sais pas, c'est peut-être mon besoin même personnel de voir que par exemple, je puisse appartenir à la société de façon entière et non en étant constamment une personne autochtone ou racisée au sein de la société québécoise. C'est je me suis dit, il y a eu dépossession, il y a eu appropriation, il y a eu destruction, il y a eu extermination. Je ressens la même chose que plusieurs personnes peuvent ressentir. Et encore, dans les derniers jours, je voyais encore des photos de différentes communautés autochtones au Canada où l'eau est tellement pas potable que les enfants ont des maladies de peau depuis, et ça dure encore, même si ça fait je ne sais plus combien d'années que Trudeau est là et qu'il nous a promis que l'eau potable allait arriver dans toutes les communautés, c'est pas encore là. T'sais. Je pense que le mot réparation est vraiment, vraiment très important. Et je pense que justement, avant d'arriver à une réconciliation, je pense, moi, je fais souvent j'utilise souvent l'idée, la métaphore de deux personnes qui discutent ensemble. Je pense qu'il faut souvent revenir un peu à cet essentiel-là de dire, bon, mais on est deux peuples, mais imagine si on n'était que deux personnes. Est-ce que je te pardonnerais si facilement après ce que tu m'as fait? Je pense que non. Je pense qu'on ne peut pas demander, justement, je pense pas qu'une partie de la population peut demander à l'autre de get over it, de passer par-dessus. On ne peut pas faire ça. C'est pas faisable, dans le sens que, par exemple, avec ce qui s'est passé avec Joyce, c'est sûr qu'à un moment donné, il va avoir un besoin de réparation pour ce qui est arrivé, parce que c'est pas seulement pour elle, c'est pas seulement sur elle que c'est arrivé, c'est pas seulement à sa famille à qui c'est arrivé, c'est pas seulement à la communauté de Manawan à qui c'est arrivé, mais c'est des choses qui arrivent presque quotidiennement au Québec depuis très longtemps, mais au Canada depuis encore plus longtemps, c'est sûr. Donc la réparation, pour moi, sera à un moment donné, à un certain détour de chemin, peut-être qui est beaucoup plus proche qu'on l'imagine ou qu'on a déjà passé ce détour-là puis qu'on tarde à donner une certaine réparation. Mais je pense que ce sera immensément important d'arriver à ce point-là, d'y réfléchir. Et c'est sûr que, par exemple, un gouvernement comme au Québec qui refuse de nommer le racisme systémique, on est loin de la réparation. Alors que moi, je considère, et je pense que beaucoup considèrent, je pense, J'ose penser que c'est nécessaire qu'on puisse, pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse passer à autre chose dans la conversation, parce que nous aussi, on voudrait passer à autre chose. On voudrait vivre de façon, comme je vous dis, de façon pleine, de façon autre dans la société québécoise, mais tant et aussi longtemps qu'on nous garde dans cette position-là, qu'on nous fait vivre ces choses-là au quotidien, on n'arrivera pas nous-mêmes à se déplacer, parce que si on essaie de se déplacer dans la société, on est carrément remis au carreau, on a l'impression que où les gens ont l'impression qu'on appartient à ce carreau-là, alors que ça ne devrait pas exister, ce genre de conditions ou de positions dans une société telle qu'on voudrait que la société québécoise soit. T'sais. Et donc, moi, je trouve ça immensément important. C'est la réflexion de la réparation, comme je vous disais, il y avait 10 phrases après le mot. Mais je pense que ce que j'ai vu dans les dernières années, c'est les échanges, les correspondances. J'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de conséquences positives. Les visites dans les écoles entre les jeunes, je pense que c'est sûr que si on investit dans la jeunesse, dans les écoles, qu'on investit. Un rapport à l'autre dans l'antipathie que dans l'empathie. J'aime beaucoup parler de l'empathie parce que je suis quelqu'un d'extrêmement empathique aussi, puis je pense qu'on en est là, je pense qu'on en est à adresser l'empathie. Au-delà du racisme, qu'est-ce qui est malade, c'est notre empathie envers les autres. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à vivre dans une société qui sépare constamment les gens et qui les met constamment dans différents niveaux, différents rapports de force? Je pense que d'être conscient de ça, de s'éduquer là-dessus, c'est les premières marches, mais ensuite de créer autour de soi des occasions de rencontre, de réflexion, puis comme on se dit, tu sais, on n'est pas obligé d'être parfait dès le début, puis je pense que ça aussi, il faut l'enlever de notre tête, tu sais, d'avoir peur de faire des erreurs. Je pense qu'il faut réussir à tasser ça un peu, tu sais. Moi aussi, j'ai eu peur quand j'ai écrit ce livre-là, de faire des erreurs. J'en ai peut-être faites, mais maintenant, je les assume, puis je me dis que ça faisait partie de ma progression, de mon évolution, et voilà où j'en suis. Voici toutes les conséquences positives, j'ai envie de dire, que ça a eu sur moi de faire des erreurs, puis d'avoir compris en quoi elles sont aussi importantes que de faire marche avant. Tu sais. Et donc, je pense que c'est toute ma réponse. Je pourrais dire plein de choses, mais je pense que je me répéterai au final.
Excellent, merci. Denis, est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Non, je pense que Natacha, je pense que où on l'a déjà discuté en tant que, je pense que la réponse, je pense, pour moi, c'est vraiment ce que je viens de dire, c'est qu'il faut que les Blancs commencent à assumer leur responsabilité de s'éduquer, de se changer, d'avoir le dialogue entre eux. Et puis de élire, mettons, on est un peu plus politique, de choisir de niveau politique des gens qui vont nous guider vers un gouvernement qui va comprendre que l'oppression, c'est une question de ressources, c'est une question d'enlever les ressources, c'est une question de voler de notre peuple et qu'il faut réparer d'une façon matérielle ces relations qui ont été détruits depuis très longtemps. Donc, je pense que pour moi, c'est surtout la réponse. Il faut que la communauté blanche, qui n'est pas une seule communauté, mais où on comprend plus ou moins ce que je veux dire, commence à voter, à parler, à prendre des positions de leader, parce que si on dit toujours, oh, on va attendre, comme j'ai dit avant, je vais me répéter, mais je vais nuancer un peu. Si on attend que un autochtone, un peuple, quelqu'un de la communauté autochtone va nous guider, va nous guider et nous éduquer pour qu'on arrête d'être raciste. On enlève notre responsabilité, on met le fardeau sur eux. Et aussi, c'est une façon de dire, j'attends que quelqu'un vienne me sauver de mes privilèges. J'attends et en attendant, on n'a pas besoin de changer. En attendant la réponse d'une autre communauté, qu'on continue à opprimer, qu'on continue pour lesquels on continue à rendre la vie difficile, on construit une situation dans laquelle on peut avoir la conscience, on peut alléger la conscience en disant, oh ben moi, je suis prêt si eux ils veulent venir m'éduquer et m'aider tout en même temps que je vote pour des gens qui les oppriment. Donc il faut qu'on change cette attitude d'une façon profonde chez notre propre communauté. Et je pense que pour moi, ça, c'est vraiment la réponse reste.
Merci. Une deuxième et dernière question qui nous vient de Malou Brewer. Excuse-moi si je la prononce pas bien. dans le plan de famille. Quel rôle peut jouer l'éducation au primaire, secondaire et post-secondaire dans cette dite réconciliation et dans l'antiracisme, selon vous? Donc là, vraiment sur le niveau, on parle d'éducation, peut-être même académique là, à l'école.
Je pense qu'il y a beaucoup qu'on peut dire, mais mettons, il faut qu'on me pose des questions. Quel livre d'histoire, qu'est-ce qu'on utilise comme livre d'histoire? C'est qui les a écrits? Quel roman est-ce qu'on enseigne? Et c'est qui les a écrits? Et de comprendre que peut-être cette histoire, cette éducation hégémonique qui est faite pour construire un peuple est peut-être en train de construire un peuple qui est aveugle dans beaucoup de sens. Et je pense que je vois des changements par rapport à ça. C'est certain que c'est en train de changer, mais encore, si ça reste que c'est aux professeurs et individus, mettons des individuels, de faire des changements si eux, ils veulent ou ne veulent pas, je pense que c'est pas assez. Je pense qu'il faut quand même réviser des textes qui sont en vérité pleins de mensonges, qui sont, tu sais, de montrer que, de faire une analyse de l'histoire qu'on a reçue et de se poser la question de comment on peut enseigner ces questions historiques, identitaires, d'une façon plus honnête et plus nuancée. Donc, je pense que c'est extrêmement important. L'école était faite pour faire, l'idée de l'école est basée dans le nationalisme. C'est fait pour construire un peuple qui partage une identité et qui fait un travail ensemble pour mener un pays dans une certaine direction. Et maintenant, on a oublié les origines de l'éducation. Il faut qu'on se souvienne de pourquoi ça a été construit comme ça, de le déconstruire, de le reconstruire pour construire une société plus juste.
De mon côté, je vais encore avec mon expérience personnelle. Tu sais, quand j'ai écrit mon premier recueil puis que j'ai commencé à faire des premières visites dans les classes, ça fait quasiment une dizaine d'années maintenant. À l'époque, je pouvais vraiment pas... Quand j'abordais la question autochtone, ben les questions autochtones, il fallait vraiment que je parte du début. Puis à l'époque, tu sais, j'avais peu de connaissances, tu sais, sur ces conditions-là, mais en même temps, il y avait l'effet qu'elles avaient sur moi que je pouvais raconter. Donc, à ce moment-là, j'étais beaucoup plus dans ce partage-là. Mais c'est sûr que je partais vraiment du début, puis qu'il fallait vraiment que j'explique presque l'histoire du Canada et du Québec à chaque classe que je visitais à l'époque. T'sais. Et maintenant, avant la pandémie, c'est sûr, mais même, je pense que... Non, j'ai quand même... J'ai eu la chance de visiter quelques classes dans différentes écoles dans les 2-3 dernières années, puis j'ai vraiment vu... J'ai vraiment été impressionnée par, en fait, la qualité des questions, la qualité des réflexions que les jeunes avaient en général, que ce soit même des fois au primaire, mais même au secondaire et au cégep surtout. Dans le sens que j'ai l'impression que notre jeunesse comprend, en fait. Je pense que ça vient aussi avec les réseaux sociaux, avec les TikTok, Instagram et tout ça. Les jeunes, étant connectés, sont beaucoup plus en relation avec le monde extérieur, avec le monde entier, je dirais presque. Donc, il y a comme une différente façon d'être au monde qui est totalement différente de celle qui a peut-être pu être la nôtre avant les réseaux sociaux. Et donc, en quelque sorte, j'ai quand même une vision comme j'ai l'impression que la prochaine génération va vraiment créer, va vraiment amener la société québécoise ou canadienne dans un vrai basculement des perceptions, des vieilles perceptions, des perceptions qui ont été enseignées justement par les écoles pendant un certain bout de temps, ce qu'on nous a enseigné comme histoire de l'Amérique aussi, qui est presque en totalité assez mensongère. Donc, si justement... Si les Autochtones, par exemple, avec les réseaux sociaux, commencent à partager leur version de la colonisation des Amériques, c'est sûr que les jeunes, quand ils vont retourner à l'école, ils vont se dire, tu sais, ceux qui ont eu accès à ça, retournent à l'école, ils vont dire, ouais, mais c'est pas ça qui s'est passé réellement. Tu sais, donc, on va commencer à avoir un changement de perspective, mais aussi un changement du discours qui va être assez, je pense, assez drastique au cours des prochaines années, à partir du moment où ces jeunes-là qui vivent avec ça vont atteindre la majorité, ils vont aussi, éventuellement, peut-être dans une dizaine d'années, devenir les professeurs, devenir les intervenants dans la société dans laquelle on se trouve. Et je pense que c'est des personnes aussi qui sont en relation avec ce qui se passe aux États-Unis, avec dans le reste du Canada, avec ce qui se passe dans l'Amérique latine, même, je dirais. Et à partir de ce moment, je pense, je vois vraiment pour moi qui va, ça va vraiment beaucoup changer au cours des prochaines années. Donc, moi, j'attends vraiment comme un peu ce moment-là parce que je trouve ça déjà intéressant de voir dans quelle sphère se trouvent nos jeunes en ce moment et dans quelle réflexion. Donc, je suis quand même assez optimiste de ce côté-là.
Merci beaucoup. Ce sont des beaux mots pour conclure cette table ronde de lancement de votre livre. Écoutez, merci à vous deux de vos mots qui sont pleins de sagesse, qui nous illuminent. Et pour moi, j'ai l'impression qu'on commençait, là, j'aurais pris une autre heure très facilement et je pense qu'il y a une webstatrice, webstateur aussi. Merci à vous de nous avoir suivis pour 7h10. Merci à Éco-Société. Je rappelle que votre livre « Quoi, je te salue » part 2, Reloaded, Redux, le retour de « Quoi, je te salue » est désormais en librairie à partir d'aujourd'hui même. Donc, ça vaut la peine de lire et relire, partager autour de vous. C'était Natacha Canapé-Fontaine en direct du Ciel étoilé. Et Denis-Élise Béchard en direct de la Grande Bibliothèque de New York. Et donc, merci à vous deux. Merci tout le monde de nous avoir suivis. Puis, rappelez-vous, c'est entre nos mains, toutes et tous, c'est à nous de bâtir ce présent et ce futur. Peace out.
Vous entendiez la période de questions de la conférence animée par Webster avec Natacha Canapé-Fontaine et Denis-Élise Béchard sur la nouvelle parution de leur livre « Quoi, je te salue ». Vous êtes toujours sur CKUT.ca 90.3 FM. Nous allons ensuite entendre témoignages sur l'inceste à répéter plusieurs fois pendant l'émission. Cette émission est spéciale, traite du sujet entre autres de l'inceste de manière très réaliste et très explicite. Donc, si vous n'avez pas le cœur à écouter cette émission, ne le faites pas. Dans un moment de l'émission, nous allons parler de pays francophones. Mais il s'agit de savoir que les pays sont francophones par colonisation, où le français, la plupart du temps, est imposé, y compris en France elle-même, le français a été imposé comme langue. Alors, c'est un processus colonial. On dit pays francophones, mais il faut reconnaître que tous ces pays, en général, n'étaient pas francophones, et que différentes luttes existent de décolonisation que nous appuyons. Je parle pas au nom de CKUT, mais en mon nom personnel. En France, dans les dernières semaines, est apparu hashtag MeTooInceste, et c'est l'occasion de vous refaire entendre un témoignage enregistré en 2013. Il y aura une présentation cette semaine dans le cadre de hashtag MeToo, dans le contexte de hashtag MeTooInceste, intitulé « De la loi des pères » à l'incestueur, avec Christian Labric et Patrick Jean. Une présentation intitulée « De la loi des pères à l'incestueur fait face au patriarcat et à la violence sexuelle », conférence rencontre avec Patrick Jean et Christian Labric, le 27 janvier, 13h, à l'heure de Montréal, 19h, heure de France, Belgique. Beaucoup de personnes des pays francophones seront présentes à cette rencontre. Le texte se lit comme si, dans un contexte de pandémie où les milieux se referment par mesure de sécurité, les femmes et les enfants sont davantage placés dans un contexte de dépendance. Il a été constaté que les cas de violence conjugale contre les enfants se sont multipliés. Ce n'est pas différent pour les violences sexuelles. Sous la loi des pères, ces situations se reproduisent continuellement et forment la trame du patriarcat. C'est dans ce cadre que Patrick Jean, auteur du livre « La loi des pères » et moi, Christian Labric, survivants masculins d'inceste et autres agressions sexuelles, nous unissons pour tenir cette conférence-rencontre autour du combat contre les violences sexuelles et à caractère sexuel dans un contexte plus large de la lutte contre le patriarcat. Nous présenterons cette conférence-rencontre à la fois en tant qu'homme, placé en tant que tel en position de domination sociale, et en tant que militant et survivant. Le livre de Patrick Jean intitulé « La loi des pères » est une enquête au cœur de la domination masculine, titre de son film qui est aussi une référence. Et comme l'indique le sous-titre de son livre, « De l'aveuglement de la justice et de la société face à l'inceste et à la pédophilie ». Dans son livre, Patrick Jean démontre les mécanismes qui facilitent la constante reproduction des agressions sexuelles commises contre les enfants. En infiltrant les groupes masculinistes ici, dans ce que nous appelons le « Québec », entre guillemets, Patrick Jean a été mis en contact avec des réseaux qui à la fois se battent contre les droits des femmes et leur empowerment, mais aussi qui défendent le droit des pères et des hommes en général à agresser leurs enfants. Évidemment, la plupart du temps, ces agressions sont présentées comme des relations filiales, amoureuses, de plaisir partagé, de découverte de la sexualité, etc. Le livre de Patrick Jean retrace aussi en parallèle toute une histoire de propagande et de pratique de la pédocriminalité qui a sévi même dans les tribunes de grands journaux et a été défendue par des intellectuels notoires. À travers ce continuum de violences sexuelles, il explique comment le concept de syndrome d'aliénation parentale, tel que créé par le psychiatre pro-pédophile Richard A. Gardner, a servi sous ses différents synonymes, la loi des pères, pour incriminer les femmes qui veulent protéger leurs enfants face à leurs pères agresseurs et à conserver ces enfants proies dans leur milieu d'agression, notamment incestuelle. Pour en savoir plus sur les perspectives de Patrick Jean et leur actualité, vous pouvez lire un excellent article sur Mediapart. On y reviendra. Ainsi que suivre la page Facebook du livre La loi des pères, La loi des pères sur Facebook. Moi, Christian Labrec, survivant, je suis né au sein du patriarcat de la dépendance des mères. Je suis l'enfant incestueux de l'ordre social historique que décrit Patrick Jean. Sous prétexte d'éducation sexuelle, mon père m'a agressé de l'âge d'environ 8 ans à 20 ans. J'ai cru pendant longtemps que les agressions sexuelles à proprement parler, des fellations et sodomies, s'étant arrêtées, j'avais arrêté d'être agressé, mais j'ai appris plus tard que placé dans une situation où mon père s'exhibait devant moi, se masturbait devant moi, m'a raconté ses histoires de pédophilie et d'histoires sexuelles, même s'il n'y avait plus de contact sexuel, j'étais toujours agressé. Tout au long de ces années, il n'avait pas non plus de cesse de me dénigrer, de me rabaisser. Je travaillais aussi pour lui de 11 ans à 20 ans, alors le contexte d'enfermement était encore plus global. Ces agressions multiples ont eu des effets et laissé des souffrances profondes que je n'ai jamais fini de guérir. Toute ma vie en a été marquée, même des années après, je compose encore avec les conséquences tous les jours de ma vie. Si vous entendez mon témoignage, vous pouvez aller sur YouTube et chercher le nom de mon père, Daniel Labrec. Vous pourrez alors visionner le film ou la vidéo. À l'intérieur de moi-même, il y a encore un enfant agressé qui tente de se défendre, qui se dénigre et se soumet dans la violence, dans mon cas surtout psychologique et sexuelle. Il est possible que cet enfant qui a mal m'accompagnera toute ma vie, malgré les thérapies. J'ai trouvé une partie de ma guérison en témoignant de ma réalité malgré les silences voulus et entretenus, ainsi qu'en faisant des recherches étendues sur les conditions sociales qui mènent à la reproduction des agressions sexuelles et de leurs conséquences, ainsi qu'en me solidarisant avec d'autres victimes survivantes, survivantes, avec qui j'ai partagé la parole et le vécu. En ce sens, vous pouvez retrouver mes pages Facebook de survivants à page d'un survivant masculin d'inceste et autres agressions sexuelles et à entraide entre victimes d'inceste. Nous avons collectivement, que nous nous connaissions ou pas, développé tout un réseau organisé par et pour les survivants et survivantes, ainsi qu'avec les différents intervenants et intervenantes, pour nous renforcer, pour partager, pour solidariser activement, pour nous solidariser activement, et essayer de mettre un terme à ces agressions en luttant contre ce qui permet leur reproduction. La bataille est très loin d'être terminée, mais il est clair qu'exprimé dans les mouvements comme hashtag MeToo et maintenant hashtag MeToo Inceste, et l'importance fondamentale des travaux de guérison comme ceux de la survivante et psychiatre Muriel Salmona, nous avançons à grands pas. Nous savons aussi que le problème de la violence faite aux femmes et aux enfants réside en large partie sur la construction de la masculinité au sein du patriarcat. Nous assumons que pour que la transformation soit pleine et entière, il nous faut aussi assumer une cassure avec notre socialisation masculine. C'est ça à quoi nous faisons face aussi en tant que luttants contre le patriarcat, tout en étant conscients d'être des hommes dans cette position dominante. Nous sommes donc appelés à doublement faire face au problème de la violence du patriarcat dans la société en général et en nous-mêmes. Nous avons de grandes responsabilités que nous voulons assumer. C'est ainsi, en mettant à jour le plus complètement possible la réalité du patriarcat et en pensant collectivement les moyens d'y faire face, que nous facilitons ensemble notre libération collective. Dans la continuité de nos luttes collectives, nous vous invitons à un moment de conférence, de parole, d'échange et d'organisation potentielle. Vous pourrez trouver plus de détails sur page d'un survivant d'inceste et autres agressions sexuelles ou en cherchant le nom de Christian Labrec sur Facebook ou entraide entre victimes d'inceste. Alors, ces rencontres de la loi des pères à l'incestuaire, faire face au patriarcat et à la violence sexuelle, conférence, rencontre avec Patrick Jean et Christian Labrec. À répéter plusieurs fois pendant l'émission, cette émission est spéciale, traite du sujet, entre autres, de l'inceste de manière très réaliste et très explicite. Donc, si vous n'avez pas le cœur à écouter cette émission, ne le faites pas. Le témoignage que vous allez entendre a été quelque peu modifié pour les fins de cette diffusion. Vous pouvez l'entendre dans son intégrale sur YouTube.
Dès le jeune âge, à peu près vers 8 ans, ça a commencé un soir où je suis revenu de l'école. Puis on se chamaillait comme pour le fun, comme on, les bains des enfants se chamaillent physiquement avec leur père, particulièrement des garçons. Mon père, à ce moment-là, m'a comme étampé dans le plancher, c'est-à-dire il m'a mis au sol. C'était pas particulièrement violent, là. C'était genre une bataille. Là. C'est comme une bataille, on s'amuse à ça. Là. Je l'accuse pas de m'avoir violenté à ce niveau-là. Par contre, en me couchant sur le sol, il a commencé à mettre ses mains sur mon pénis. Puis à ce moment-là, ben, c'était le premier attouchement qui m'a fait. C'était le premier d'une série d'autres événements. Mon père m'a touché cette fois-là. Jusqu'à temps que ce soit l'heure du souper. Je crois que cette journée-là, ça s'est arrêté là. Mes parents avaient un restaurant. Ce que j'en ai compris, c'est que mon père aussi recevait des jeunes à son restaurant après les heures de fermeture pour lui faire des attouchements, pour avoir des relations sexuelles payées avec lui. Ce qu'on appelle la prostitution. Parce que, de toute façon, aussi, il m'en a parlé souvent, de la prostitution juvénile, comment ils abusaient de jeunes garçons à travers ça. Mais pour revenir au restaurant, mes parents avaient le restaurant, donc ils travaillaient chacun leur tour. Et les soirs où ma mère était pas là, souvent ma mère dormait ailleurs, ce soir-là, pour s'occuper d'une amie, ben, c'est les soirs où mon père, il venait me voir avant que je me couche pour me dire d'aller leur rejoindre. À ce moment-là, moi j'avais souvent peur la nuit. Je fais de l'insomnie depuis très longtemps, je pense même avant qu'il m'ait abusé, mais en tout cas, l'insomnie est devenue plus chronique encore. Fait que j'allais leur rejoindre. Puis à ce moment-là, il me touchait avec ses mains. Pour ça, il me touchait mon sexe, il me faisait toucher au sien. Des fois c'était avec les mains, des fois c'était avec la bouche. Ça m'est arrivé souvent de me réveiller le matin avec son pénis entre les fesses. Mais bon, pour juste faire sentir aux gens qu'est-ce que ça peut être de se faire abuser à cet âge-là. Quoique je doute que les gens qui ont pu être abusés aient vraiment une sensation à ce point corporelle. Parce que je le sens encore, le pénis de mon père entre mes fesses. C'est comme je vais me sentir probablement tout le reste de ma vie. Du coup, ça s'est continué comme ça. Mon père m'amenait des fois en plein air. À ce moment-là, il me touchait dans sa voiture. Et puis, il y a eu d'autres nuits où je passais la nuit à côté de lui, puis il s'était passé la même chose. Du coup, c'est arrivé au moins pendant des mois, j'ai l'impression. Encore là, j'ai un blackout, mais c'est quand même commun à plusieurs personnes qui ont été abusées sexuellement. Après ça, un soir, je suis revenu de l'école avec un bobo, comme un bouton au-dessus du pénis. Je comprenais vraiment juste pas ce que c'était. J'étais pas mal jeune à cette époque-là, puis je comprenais pas grand-chose de la santé humaine à ce moment-là non plus. Fait que je suis allé prendre mon bain, puis toujours ça que je regardais, puis là, je paniquais un peu. Fait que je me suis mis à pleurer. Puis là, ma soeur est venue, puis elle m'a dit qu'il fallait le dire à mes parents. Alors, on l'a dit à ma mère ce soir-là. Ma mère, je crois, est allée souper à la brasserie dans les soirs suivants avec mon père. Un des soirs suivants avec mon père. Puis elle lui a dit, semble-t-il, d'arrêter. Ce qu'il fait à ce niveau-là. Par contre, il faut savoir aussi que mon père m'a toujours dénigré. Tout ce que je faisais dans la vie, c'était pas bon. Je travaillais pour lui, en général, qu'est-ce que je faisais, c'était pas bon. En tout cas, j'étais vraiment un bon rien. Puis souvent, il me dit que j'allais rien faire de bon dans ma vie. Du coup, c'est aussi, ça m'a été inculqué très jeune d'avoir une très faible estime de soi-même Et puis, l'abus sexuel aussi fait en sorte de nous rabaisser. Du coup, on développe une faible estime de soi-même. Du coup, j'ai vécu dans ma vie, je commence à avoir à peine une bonne estime de moi-même. Et je vais avoir 40 ans cette année. Ou plutôt l'année prochaine. Mais, en tout cas, dans un mois à peu près. Du coup, ça a été long. Puis, c'est un travail de tous les jours. Pendant longtemps, j'ai eu des idées suicidaires. J'ai voulu mourir. Je souffrais énormément. Du coup, je parlais du fait que ça avait arrêté au niveau de ces attouchements-là. Mais par la suite, ça a continué. Mon père s'exhibait, faisait du naturisme ou du nudisme devant moi. Il exhibait son pénis, il se masturbait quand les gens avaient le dos tourné. Même pas moi, j'avais pas le dos tourné, je me voyais faire. Ça a continué pendant des années et des années. Aussi à me dénigrer, etc. Ma mère a plutôt dit, fais comme s'il n'existait pas. Puis aussi, elle m'avait dit de garder le silence par rapport aux abus que j'avais vécu, parce que ça allait probablement briser la famille, puis ça allait tirer la honte probablement aussi. Du coup, j'ai tenté de conserver ça pour moi-même pendant longtemps. Puis mon père, c'est ça, il faisait tout ça, mais il racontait aussi ses histoires avec des prostituées juvéniles dans différents endroits publics de Québec, autour des piscines en particulier. Du coup, mon père me faisait vivre dans un univers sexuel constant où c'est plein de jeunes hommes, puis lui, qui en abuse. Du coup, je viens vraiment d'un milieu où le père est abusif et la mère est un peu impuissante, inactive, tout au moins. Du coup, j'ai eu à endurer ça une partie de ma vie. Puis, ça a été vraiment violent à plusieurs niveaux. La construction de soi-même, la construction de sa sexualité. Violent au niveau de l'identité sexuelle parce que je ne savais pas ce que j'étais. Je commence à peine à pouvoir savoir un peu ce que je suis à ce niveau-là. D'avoir plein de choses dans la tête dégueulasses d'hommes qui abusent d'enfants, de mon père qui abuse de moi, de mon père qui abuse éventuellement d'autres personnes dans mon imaginaire, parce que ça se passe en réalité, mais je l'ai pas vu, alors je l'ai pensé. Et du coup, aussi que savoir qu'il y a plusieurs personnes, particulièrement des hommes, qui ont été abusés sexuellement, qui reproduisent ça, du coup la peur que j'ai de moi-même de reproduire les cochonneries que mon père m'a fait subir.
À répéter plusieurs fois pendant l'émission, cette émission est spéciale, traite du sujet, entre autres, de l'inceste de manière très réaliste et très explicite. Donc, si vous n'avez pas le cœur à écouter cette émission, ne le faites pas.
Bon, je parlais des abus que mon père faisait vivre à d'autres personnes aussi. À un moment donné, j'étais à la piscine publique, à la polyvalente de Charlebourg. Hippodrome, ça s'appelle. Puis j'étais en train de prendre l'eau avec un ami. Un ami m'a dit: Christian, fais attention au monsieur qui s'en vient vers nous, sur le bord de la piscine. Parce qu'il m'a pris sur le pouce l'autre jour, puis il m'a touché. Mais moi, cet ami-là savait pas que c'était mon père. Ça m'a vraiment frigorifié. Mais je savais que c'était un contexte qui était. Qui favorisait l'abus sexuel. Puis mon père avait un autre ami aussi qui probablement abusait d'autres membres. En tout cas, je ne parlerai pas de temps parce que j'ai pas de preuves. Mon père, je peux bien en parler parce que je suis la preuve vivante de ce qu'il a fait. J'ai échangé quand même des remarques, des commentaires sur les abus qu'il pouvait faire vivre à des jeunes hommes, dont moi. Puis c'était vraiment dénigrant. C'était genre. Des insultes typiques patriarcales, mais généralement qui sont adressées aux femmes. Mais que là, je généralise juste aux hommes aussi. Alors, c'est quoi? C'est des salopes, c'est des chiennes. Si on les dresse pour ça. Puis longtemps, c'est comme. T'as beau dire que ces insultes-là. il mérite pas d'être, puis qu'il devrait pas être non plus. Mais à force de te faire vivre tout ça, ça finit par rentrer dans ta tête. Du coup, tu te traites toi-même comme une chienne, comme une salope, comme... Puis plein de fantasmes qui t'habitent toute ta vie, de soumission, de reproduction de ces abus-là, que tu sais pas trop si c'est toi ou pas. Dernièrement, j'ai eu la chance de lire le livre noir de la violence sexuelle sur Muriel Salmona, que j'encourage à tout le monde de lire, qui nous explique bien aussi comment on vit en tant que personne qui est abusée sexuellement avec les fantasmes de nos abuseurs. On peut même faire vivre sur nous-mêmes. Du coup, tout ça, ça fait beaucoup. C'est que mon père, non seulement elle m'a abusé sexuellement, mais aussi était mon premier employeur. J'ai commencé à travailler, j'avais 10 ou 11 ans. Fait que tout ça coexistait. Donc du coup, j'étais abusé très rapidement par l'autorité dans ma vie. Du coup, j'ai développé plusieurs problèmes à réaction à l'autorité parce que j'ai discuté à faire la différence dans mon corps entre l'autorité qui est légitime puis l'autorité qui l'est pas. Quoique, bon, je suis devenu anarchiste, alors je crois qu'il y a beaucoup d'autorités qui ne sont pas légitimes, tout simplement. Mais bon, à ce moment-là, j'étais pas aussi clair dans ma conscience politique. Du coup, c'était difficile pour moi d'identifier quelles étaient les autorités qui étaient bienveillantes et quelles étaient les malveillantes, avec un père qui fait ça, puis une mère qui, bon, qui a le fait cesser les attouchements en tant que tel, sauf que tout le contexte psychologique de destruction est resté là pendant des années et des années. En fait, ça a arrêté quand je suis parti de chez mes parents. Du coup, toutes mes premières années de vie ont été dans la destruction. La destruction qui éventuellement aura amené aussi l'autodestruction. Bon, la destruction, à mon niveau, ça s'est vécu par de multiples dépressions, l'automutilation, les idées suicidaires, l'ultra-sexualisation de choses atroces sur moi-même, surtout. Des fantasmes que j'avais aucune idée, j'ai toujours aucune idée de quoi faire avec ça, à part de laisser passer. C'est pas mal ce que j'en suis venu à dire que... Bon, ça va m'habiter probablement toute ma vie, mais je vais juste pas les vivre. Parce que c'est juste l'entretien d'une aide d'abus multiples que j'ai vécu, puis qui pourraient se revivre, mais qui n'ont pas lieu d'être. Du coup, cette violence-là m'a écrasé au lieu de me construire. Normalement, ce que je disais, en fait, ce que je disais hier, c'est que les parents sont comme là pour propulser vers l'avenir leurs enfants. Moi, ça me détruit plus que de propulser. Je vais encore avec tous les phénomènes corporels, le problème avec l'intimité, avec d'autres, particulièrement avec les hommes. Je vais juste aller aux toilettes pour n'importe qui, aller pisser à l'urinoir. C'est vraiment un geste simple, normal. Mais moi, je me sens mal à chaque fois que je vais pisser là puis qu'il y a quelqu'un qui s'approche. La peur viscérale d'abuser des enfants à son tour. La peur viscérale de ressembler à son père et d'être une bête pour d'autres personnes. D'être pas une bête, mais un monstre. Parce que les bêtes font pas ça généralement, justement. Mais un monstre. La peur de devenir soi-même monstrueux. Puis de refaire subir à nos autres ce que tu as vécu. Parce que ça hante ton imaginaire. Même si t'en viens des fois à dire que non, c'est pas ça que je voulais faire, mais ça te hante. C'est comme une dissociation entre ta conscience et ce qui te hante, ou entre ce que tu es capable de rationaliser et puis l'inconscient violenté. Tout ça t'amène aussi à genre ce qu'il disait aussi le livre noir de la violence sexuelle, à la dissociation. À bien des égards, à te dissocier de toi-même en trouvant les moyens de le faire, par la sexualité à outrance, par la drogue, par l'alcool, par d'autres mécanismes aussi. Moi, j'ai pas tant tombé dans la drogue, mais j'ai quand même consommé beaucoup, beaucoup d'alcool. Je fais des dépressions en récurrence. J'ai aussi, à certains niveaux, à certains moments de ma vie, vécu de sexualisation. Abusif sur moi-même, sur d'autres aussi. Mais bon, les abus ne sont pas répétés comme moi je les ai vécus. Mais des problèmes majeurs au niveau de ton vécu sexuel d'une manière ou d'une autre. D'avoir la conscience imaginaire sexuelle vraiment trash. Oh, plein de saloperies constamment dans ta tête qui t'amène aussi à être dépressif parce que tu te comprends pas toi-même puis que t'arrives de la difficulté à ressentir toutes les sensations corporelles liées à ça puis tout l'imaginaire lié à ça puis au fait que ça se continue puis ça se reproduit en toi puis qu'il y a plein de problèmes qui se posent au niveau de ta chair puis ton esprit à partir de ce geste de destruction. De pouvoir de pression. Puis le fait que ça détruit aussi, genre, le lien de tes racines. Genre, pour beaucoup, la famille, c'est comme quelque chose de fondamental, puis c'est comme ben important, puis c'est le sens, ça donne sens à ce qu'ils vivent dans le reste de leur vie. Mais moi, il y a toujours cette tendance-là que si je retourne à ma famille, je retourne vers lui. Parce que lui n'est jamais disparu de la famille, il a toujours été conservé là. Puis le fait que ma mère ait entretenu le silence, puis que ça a pris du temps et du temps avant que je puisse dire ça, ne serait-ce qu'à mon frère le plus vieux. De s'écraser dans le silence aussi, de tout vivre ça par soi-même, d'être écrasé littéralement, puis que personne ne le sache, que tout le monde pense « Ah ben, et quelque chose qui marche pas avec lui, mais c'est probablement lui-même qui marche pas. T'sais, c'est comme. C'est ta faute, là. Ça va pas. T'sais, c'est comme. Un oubli de l'histoire que t'as vécu. Parce que tu l'as pas. Genre, il y a une ignorance, puis au fait qu'on l'a occulté, l'histoire, de toute façon, fait que c'est comme. On t'a détruit, mais personne ne le sait, alors personne va probablement t'aider. Après, personne n'aide vraiment. Même les spécialistes, soi-disant, en santé, le psychologue, psychiatres, médecins m'ont pas vraiment aidé dans la vie à ce niveau-là. Il y a une incompréhension assez claire de tout ce qui peut signifier ces abus. Je commence à peine à pouvoir entrevoir des groupes qui m'aident vraiment, comme Kickforce par exemple, qui viennent en aide aux hommes qui ont été abusés sexuellement dans leur enfance puis qui ont une compréhension assez large de ce que ça a pu signifier, mais il y en a pas beaucoup. C'est comme. C'est aussi ce que Muriel Salmona dans le livre Noir de la violence sexuelle a dit, qu'il y a une ignorance profonde même chez les spécialistes de la santé, puis que ça a toutes sortes de conséquences, puis que c'est pas pris suffisamment en compte. Mais c'est ça l'histoire de ma vie, en fait, la pas prise en compte de ça, puis tous les problèmes qui est de destruction, d'autodestruction, ben ils ont amené à une destruction de mon parcours, destruction de mon parcours professionnel, destruction de mon parcours scolaire. Tu sais, je me suis rendu à la maîtrise, mais j'ai abandonné, puis j'ai toujours voulu abandonner l'école, je me suis jamais vraiment senti bien là. J'ai de la misère à me sentir bien à toute place où il y a l'autorité, que ce soit dans le travail, dans l'école, toute place où il y a l'autorité, que j'ai à composer avec l'autorité, parce que pour moi, l'autorité est liée à la destruction. Puis il y a une espèce de la nécessité de se soumettre qui est complètement autodestructrice. Du coup, ça a bousillé toute ma vie, ces abus-là, puis ça a bousillé toute ma vie, puis les gens ne comprennent pas qu'est-ce que ça a bousillé, parce que non seulement ils savent pas qu'est-ce que ça veut dire en général, mais ils savent pas qu'est-ce que ça voulait dire dans ma vie, parce qu'ils l'ont juste pas su, aussi. Genre, quand les gens, ils savent des choses, des fois, il y en a quelques-uns là-dedans qui sont de bonne conscience ou de bonne foi, puis qui vont t'aider à essayer d'affronter les choses que tu as de la difficulté à affronter par toi-même. Mais quand tu es soumis au silence toi-même, ben, y a personne qui le sait, alors tu restes avec les problèmes toi-même. Tu deals avec tout toi-même. Puis c'est tellement lourd que c'est pas étonnant. Je veux dire, après ça, je fais de l'insomnie depuis. Ça fait tellement longtemps que j'ai fait de l'insomnie que je suis même capable de me souvenir à quel âge ça a commencé. Les problèmes socio-économiques de pauvreté récurrentes. Du coup, la misère socio-économique. Problèmes sexuels avec ton identité, aussi à composer, avoir des relations harmonieuses avec tes partenaires dans l'intimité, parce que tu comprends pas tant ton corps, parce que ton corps est plein habité de plein de choses que tu contrôles pas. Problème avec la famille, qui est inconnue, si les gens qui savent pas qu'est-ce qui s'est passé, ben ils sentent que tu t'en veux à ton père, mais pourquoi t'en foutrais à ton père? C'est ton père quand même. Il y a quand même une valorisation sacrée quasiment dans la famille chez les Québécois que nous sommes, Québécois, Québécoises. La valeur sacrée du père et de la mère. Genre des filles parentales. Du coup, on doit aimer ces gens-là, mais je veux dire, ces gens-là, ce qu'ils ont mérité d'être aimés, mais pas tout le temps. Puis, ben, ça pose toutes sortes de problèmes qui sont occultés, puis que tu vis avec, puis que c'est ça, je dis l'insomnie, les dépressions, les idées suicidaires, tentatives de suicide. Ça s'en fait long, ça fait lourd, puis ça détruit ton être, ça détruit ce que tu peux faire dans la vie, ça détruit ton environnement socio-professionnel, socio-économique. En fait, c'est un poids que tu portes. Tu portes toute ta vie. Ça peut s'atténuer dans ses conséquences en travaillant sur soi-même, en travaillant en thérapie, en travaillant avec d'autres qui ont vécu des choses similaires. Mais sinon, c'est toujours là, puis ça va mourir avec toi. C'est comme. Puis ça, c'est si toi, tu l'auras pas fait subir à d'autres qui vont le faire subir à d'autres. Du coup, il y a une courroie de transmission de la violence qui se vit. Genre, je sais, mon père, il a été violenté dans sa famille. Tout au moins au niveau psychologique, qui était traité comme le fou de sa famille ou le débile, celui qui n'ira pas à l'école parce qu'il mérite pas d'y aller, parce que de toute façon il est trop cave pour étudier alors que les autres sont allés. Alors c'est sûr, il a été dénigré, diminué, puis ça a détruit sa vie aussi. Mais justement, moi, ma vie a été détruite par lui, mais ce que j'ai décidé, c'est que j'allais faire du bien autour de moi, que j'allais pas genre jouer la victime justement, puis juste répéter ce que lui a fait, puis que je l'ai fait subir aux autres pour me venger, puis que dans le fond la cette courroie de transmission de la violence dont je parle allait juste se reproduire. Du coup, c'est important que je la fasse cesser avec moi. Puis pour que je la fasse cesser avec moi, ben ça prend de l'aide. Ça prend la force que j'ai en moi-même, mais j'ai une grande force, parce que sinon je serais plus là pour en parler. La force de vie, par contre, des fois, la force de vie, elle s'atténue. On se fatigue avec le temps, avec subir tout ça, puis à combattre toutes les conséquences que ça a. Les conséquences de santé mentale, les conséquences socio-économiques. En tout cas, je pense que je les ai déjà un peu nommées. Puis, ben c'est ça, je suis encore là aujourd'hui, puis si je fais justement ce reportage sur ma vie personnelle à travers tout ça, c'est pour que ça se dise. Pour que ça se dise que mon père, Daniel Labrique, a abusé de moi-même. Il a déjà été arrêté pour avoir abusé quelqu'un d'autre, et il a probablement abusé beaucoup d'autres monde. Puis que aussi, si les gens vivent encore avec ça, puis qui ont besoin de le dire, ben qu'ils le disent. Ça prend une caméra, hein? Moi-même, je suis prêt à aller vous filmer pour que vous le disiez si vous voulez être filmé, ou si vous voulez qu'on enregistre le son de votre voix, je vais faire ça aussi. Mais sortez-le, gardez-le pas pour vous. Le garder pour soi, comme ça, comme plusieurs personnes ont essayé de faire pour avec les victimes, ben, Ça mène à toutes sortes de phénomènes comme la reproduction des abus, ça mène au suicide, ça mène à la misère de toutes les manières. Alors, je vous encourage fortement à témoigner comme je le fais présentement. Si je le fais, c'est aussi pour d'autres qui n'oseraient pas nécessairement le faire, mais qu'on s'encourage collectivement à faire ça. Qu'à faire cesser le silence qui entoure, puis non seulement le silence, mais qu'on trouve le moyen de se rassembler ensemble pour confronter cette existence des abus et qu'on les fasse cesser à un moment donné ou à un autre en luttant fort contre ce qui les provoque. Puis ce qui les provoque, ben fondamentalement, c'est pas très compliqué, c'est l'oppression. L'oppression patriarcale, particulièrement dans ce cas-ci. Alors, c'est tout un système qu'il faut combattre, mais faire des liens aussi entre ce qu'on combat à titre individuel et ce qu'on combat à titre systémique. Ce que j'aurais aimé ça que les gens fassent pour moi, ben, j'aurais aimé ça qu'ils fassent cesser le silence, que ça n'aurait pas été juste sur mes épaules à moi de faire cesser le silence. Qu'on m'aurait aidé dans des situations de vie où j'ai de la misère. Comme j'ai dit, j'ai de la misère dans pas mal de choses. Qu'au lieu de soumettre au silence, qu'on le dise puis qu'on le fasse savoir, comme ça peut-être d'autres personnes seraient portées volontaires à m'aider et à confronter l'abus. Puis en plus, c'est plus genre seulement à m'aider moi à confronter l'abuseur qui est mon père, mais peut-être à faire cesser complètement aussi en le disant, en jetant la honte sur lui et non sur la victime que je suis, les autres victimes qui ont pu être victimes de lui ou de d'autres, ben en jetant le blâme sur lui, qu'il sache que les gens ils savent, puis qu'il pourra pas s'en tirer comme ça, t'sais. Parce qu'il y a trop de monde qui s'en tire comme ça. Il y a trop d'abus qui se perpétuent à tous les niveaux, autant au niveau de la famille qu'au niveau des hommes sur les femmes en général, sur les hommes sur d'autres hommes. C'est comme les abus sont perpétués, ils sont tus. En général, ils s'en tirent même en cours. Ils s'en tirent un peu partout. Du coup, ça fait juste continuer. Fait que le dire, le confronter, ne pas passer sous silence, ne pas le faire taire, ça serait comme déjà un début. Puis après ça, ben, trouver les moyens de confronter tout ça. Ça se fera pas du jour au lendemain, mais si on commence pas aujourd'hui, ben, on commencera pas plus demain. Puis il y a tout un travail à faire, aussi bien commencer bientôt. Ne serait-ce qu'à l'instant dans lequel on se parle. Parce que le viol est une réalité de tous les jours, de tous les instants. Que ce serait bien le temps que ça arrête. Puis dans le fond, on a reparti la caméra parce qu'il y avait des choses que j'ai oublié de dire. Tu sais, il y a plein de choses que j'oublierais de dire, c'est sûr, dans ce témoignage-là. En même temps, faire ce témoignage-là, c'est comme pour en parler, ça libère toujours un peu, en même temps, tu te sens toujours coupable de faire ce genre de témoignage parce que c'est par toi que cette laide vérité continue d'exister. Fait que je pense qu'il y a aussi, comme souvent, les idées suicidaires viennent de là. C'est comme te faire disparaître, c'est te faire disparaître cette partie de la réalité-là. Mais en même temps, on sait très bien qu'elle disparaît pas avec la perte de quelqu'un. Que c'est aussi un problème social plus généralisé que soi-même. Parlant de problèmes plus généralisés que soi-même, ces abus sexuels-là parlent aussi genre de comment on pornographise les corps dans la société, puis comment on les abuse. Puis j'ai parlé aussi du lien entre, c'est ça, le phénomène plus social puis le phénomène individuel qui se connecte. Et une chose que j'ai oublié de dire dans mon témoignage, c'est que vers la fin de mon adolescence, je crois que c'est avant la vingtaine, mon père, à une ou deux reprises, en parlant de la pression juvénile, ça j'en ai déjà parlé dans le témoignage, me proposer de me prostituer pour lui. Comme il pouvait plus vraiment m'abuser de manière gratuite, ben c'était sa manière à lui de pouvoir continuer à faire ça en me payant. D'ailleurs, il a déjà dit à une amie que dans le fond, si j'avais été payé pour le faire, peut-être que je serais pas aussi révolté contre lui. Ce qui m'amène à être encore plus révolté parce que ça n'a juste pas lieu d'être. Ben, c'est ça. On part ça, la mémoire corporelle de tous ces abus qui continuent encore à exister aujourd'hui pour moi, elle se traduira jamais dans un témoignage quelconque, audio, visuel, peu importe, parce que c'est pas vraiment visible. Il y a toujours les plaies sur son corps ou les années d'accumulés qui passent parfois un peu sur sa peau ou en dessous de ses yeux à certains endroits, mais quand même. La mémoire corporelle n'est pas quelque chose qui est facilement reproductible par les moyens technologiques. Mais à chaque fois qu'on parle de ça, on se sent coupable parce que, comme j'ai dit, la parole revient alors qu'elle devrait être tue, comme ça a été essayé à plusieurs égards, à mon avis, sur moi et sur d'autres. Mais c'est ça. Fait que tout ça ramène au fait que ça doit être son fils, ça doit être quelqu'un de proche. Puis si les abus arrivent souvent par les gens proches, ben, je suis un corps comme les autres dont on peut abuser si on a le pouvoir de le faire. Fait que c'est important de le dire, même si on se sent vraiment coupable à quelque part, puis qu'on sent qu'on fait du tort à des gens qu'on aime, mais que on oublie parfois, même en tant que personnes qui ont été abusées, que les personnes qui on aime nous ont fait bien du tort, puis que la parole sorte, ben c'est peut-être juste la moindre des choses. Ça libère, puis c'est pour ça aussi que j'encourage les autres à dire.
Alors maintenant, je vais vous lire un extrait du livre de Patrick Jean, qui dit « La question de la pédophilie et de l'inceste nous ramène à ce droit de propriété des hommes sur le corps des femmes et des enfants, qui s'inscrit dans une idéologie universelle considérant ce pouvoir non seulement comme indiscutable, mais surtout comme le fondement même de l'organisation sociale à travers la famille et les institutions. C'est donc de manière cohérente que l'on mesure que, entre guillemets, c'est une citation, « Seuls 40% des hommes qui commettent un crime sexuel sur un enfant sont pédophiles. 60% ne le sont pas. Ils ont des problèmes psychiques. Sont violents avec leurs enfants, mais aussi avec leurs femmes. » Fin de la citation de Frédéric Lemaître. Faire apparaître la pédophilie et l'inceste non plus comme des faits divers, mais comme les résultats du droit archaïque des hommes, incessamment réactualisés même dans les sociétés les plus modernes, c'est remettre en question toutes les valeurs culturelles qui fondent la société. Deux visions de l'égalité s'opposent sur cette question. L'une considère que l'égalité consisterait à distribuer de manière aveugle, en ce qui concerne le sexe, toutes les places, tâches et richesses dans la société. Il suffirait de répartir les femmes et les hommes à tous les niveaux de la structure sociale et politique, sans toucher à celle-ci. Les tenants et tenantes de cette proposition parlent plus facilement ailleurs, d'ailleurs, de mixité que d'égalité, de mixité entre guillemets que d'égalité entre guillemets. L'autre vision, soutenue par Françoise Héritier, pose que la structure sociale et politique elle-même est construite sur le genre masculin. Pour suivre cette idée, postule que la mixité entre guillemets à tous les étages ne suffira pas et que c'est la refonte de tous les rapports sociaux et politiques qui doit être espérée. Patrick Jean disait d'ailleurs, en fin de semaine, dans une émission de BFM TV, « Tant qu'on ne prend pas acte de ces faits-là et qu'on ne se dit pas qu'il y a une grande révolution à faire, culturelle, quasiment anthropologique, dans cette société sur ces questions-là, on ne fera rien. » Pour en savoir plus sur l'ensemble de ces perspectives, vous pouvez vous rendre, en fait, vous n'avez pas besoin d'aller vous rendre loin, très très loin, ça sera à la maison, donc, ou ce que vous pouvez prendre l'internet. Ce sera conférence rencontre de la loi des pères à l'incestuaire, faire face au patriarcat et à la violence sexuelle. Mercredi, donc, c'est cette semaine, entre 13h et 16h, sur Zoom. Pour avoir tous les détails, vous vous rendez sur page d'un survivant masculin d'inceste et autres agressions sexuelles. Ou entraide entre victimes d'inceste. C'est qui complète en profondeur pour aujourd'hui sur CKUT.ca 90.3 FM. Alors, on vous remercie d'avoir été là et continuez d'écouter nos bonnes émissions à CKUT.
Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec. All
right. Directions on how to use your radio. Find the power button. Turn it to on. Turn the knob to CKUT 90.3 FM. Relax and enjoy.
Data are data. When you're not paying for a product, you are the product. especially in web and email services, where multinationals compete to manage your communication so they can make a profit off of the private communication you are producing. Coombit is a worker cooperative trying to help small organizations or individuals get their email, website creation, and website hosting services off corporate services such as Google. For more information, contact us at coombit.org or email at info@coombit.org. That's K-O-U-M-B-I-T. We are not on Facebook.
Simplest gestures are our best protection to fight the virus. That's why we need to continue following basic health measures, such as keeping a 2-meter distance from others, wearing a mask, and washing our hands regularly. Avoid travel and non-essential trips, and if you develop symptoms, be sure to get tested promptly and follow self-isolation guidelines. See all of the measures in place at quebec.ca/coronavirus. Let's continue to protect ourselves. A message from the Gouvernement du Québec.
Following is a previously broadcast program.
This message is intended for all Quebecers. We must take extreme measures to curb the pandemic. Only essential services remain open. Gatherings are prohibited. It's forbidden to leave your home between 8 p.m. and 5 a.m. These efforts aim to protect our healthcare workers, seniors, and loved ones. Let's comply with the lockdown and curfew to lower the risk of contracting COVID-19, because our health is important. For more information, visit quebec.ca/confinement. A message from the Gouvernement du Québec.